Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère. Tout l'univers de la magie. Code Mantica.
Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans des documents assez intrigants qui nous parlent d'une série de podcasts. Ça s'appelle God Mantica.
Exactement. Et l'idée derrière, c'est une sorte d'émission initiatique pour guider les auditeurs sur le chemin de la sorcellerie. C'est assez spécifique.
Oui, tout à fait. Et pour ça, on a plusieurs sources. Des transcriptions d'émissions visiblement passées sur des radios web comme Wicca Podcast Radio, Witches Radio, animées par un certain Mandalas Chakra.
Exact.
On a aussi des bouts de pages web du même univers, la description d'une application pour ordinateur École des Sorcières et Coven, et puis un guide, un PDF appelé Le Fil d'Ariane. Bon, l'objectif pour nous, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que God Mantica propose vraiment comme initiation réelle? Quel concept on retrouve? Comment ça marche au niveau pédagogique? Et puis la communauté aussi. On va se baser uniquement sur ce qu'on a lu, bien sûr.
Tout à fait.
Alors, pour commencer, d'après ces sources, c'est quoi exactement God Mantica?
D'après les infos qu'on a, God Mantica s'est présenté comme une série de podcasts. Le but est clairement initiatique. L'animateur, ce fameux Mandala Chakras, il dit vouloir accompagner les auditeurs pour qu'ils deviennent, je cite, des sorciers ou sorcières confirmés.
Confirmés, carrément. Et ça porte sur quoi comme type de magie?
Apparemment, ça se concentre sur ce qu'ils appellent la magie naturelle et la sorcellerie traditionnaliste. Voilà les termes utilisés.
D'accord. C'est intéressant comme approche, un programme audio pour une initiation. Comment s'est structuré ce parcours d'après les documents?
Alors, la structure a l'air assez pensée. Le noyau dur, c'est l'étude de 37 podcasts de cette série God Mantica. Et pour les débutants, il y a ce fameux fil d'Ariane, le guide PDF, qui donnerait un ordre pour écouter, pour étudier.
Une sorte de programme, quoi. Et les sujets, ça va de quoi à quoi?
C'est assez large, on dirait. Ça parle de l'histoire des sorcières, mais aussi de trucs plus pratiques, comme la mandragore, les chakras, les centres d'énergie, selon eux, ou comment créer son livre des ombres, qui est une sorte de journal magique personnel.
Et ce n'est pas que de l'écoute dans son coin, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'interaction.
Oui, c'est un point important. Les sources parlent de sessions de questions-réponses en direct, par webcam, via Teams ou Discord, apparemment.
Ah oui, régulièrement.
Tous les vendredis soirs, c'est ce qui est dit. Animé par Mandala Chakras lui-même, dans un espace qu'ils appellent le Cercle des Ombres.
Le Cercle des Ombres. Et puis, il y a cette application-là, École des Sorcières et Coven. Les sources disent que c'est une clé vers l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle fait, cette application? Et Coven, ici, ça veut dire quoi?
L'application, déjà, elle est gratuite, elle tourne sous Windows. Elle semble être le centre névralgique, quoi. Elle donnerait accès à des cours en direct, à des grimoires en PDF à télécharger, et surtout à ce fameux Coven des Ombres.
Et donc, le Coven des Ombres, c'est...
D'après le contexte, un Coven ici, c'est un groupe, un cercle restreint d'initiés qui suivent le même parcours. L'application, c'est la porte d'entrée vers cette communauté, décrite comme secrète.
Donc on a un système assez complet, hein. Les podcasts pour le contenu, le mentorat potentiel avec les directs et la communauté via l'appli. C'est assez moderne comme dispositif pour un sujet aussi traditionnel.
Tout à fait. Ça mélange les deux.
Alors, plongeons dans le concret. Les transcriptions insistent énormément sur la préparation avant de faire un rituel.
Ah oui, ça c'est un point central, mais vraiment central dans les documents. La préparation est hyper méticuleuse. Ça touche à plein de choses. D'abord le moment.
Le timing?
Voilà. Ils insistent sur choisir le bon jour de la semaine parce que chaque jour serait lié à une planète, à une énergie spécifique. Par exemple, le lundi, c'est la Lune, donc ce serait bon pour le féminin sacré, la divination. Le mardi, c'est Mars, plutôt pour vaincre des ennemis, ramener la paix, ce genre de choses.
Et les phases de la Lune aussi, j'ai vu ça.
Exactement, c'est crucial. La Lune croissante, c'est mieux pour la puissance, apparemment. Ils distinguent même entre Lune montante et descendante pour des effets différents. Feu, genre immédiat, ou eau, plus durable.
C'est très codifié. Mais il y a aussi une phrase qui dit « écouter son cœur ». Comment on articule les deux, la règle stricte et l'intuition?
Les sources ne l'expliquent pas en détail, mais on a l'impression qu'elles donnent les règles. Jour, planète, lune, comme une base solide, tu vois. Mais elles laissent entendre que l'intuition, le ressenti personnel, ça reste important. Un guide valable.
D'accord. Après le moment, il y a le lieu.
Oui, le lieu. Impérativement calme, sans risque d'être dérangé. Ça peut être une chambre ou une pièce dédiée qu'ils appellent occultum.
Occultum.
Oui, c'est le terme utilisé. Ou même juste un coin tranquille dans la nature. Le truc important, c'est de couper son téléphone, prévenir les gens autour. Il y a même une anecdote marrante, mettre un balai debout devant la porte pour dire « ne pas déranger ».
Ah oui, le coup du balai, j'avais noté ça aussi. Et la propreté de l'endroit ?
Essentiel. Propreté physique, mais aussi énergétique, insiste-t-il. Faut que l'espace soit net et en ordre.
Il y a aussi des conditions qui touchent la personne elle-même, non ? Des trucs assez personnels.
Oui, des directives assez précises. Pour les femmes, on leur dit de ne pas pratiquer pendant leurs règles, parce que le corps serait en mode purge énergétique, selon ces textes.
Ah, d'accord.
Et pour les hommes, c'est spécifié, pas sous l'influence de l'alcool. Ça montre bien qu'ils cherchent un état de clarté, de pureté pour la personne qui pratique.
Et le matériel ? Là aussi, ça a l'air très strict.
Carrément. Ils insistent, il faut avoir tous les ingrédients et accessoires demandés avant de commencer. Surtout pas de substitution à la va-vite.
Sinon ?
Le risque, d'après les trixtes, c'est d'avoir l'effet contraire. Donc ça veut dire les bonnes bougies, de la bonne couleur pour le bon jour. Lundi, c'est blanc pour la Lune, mardi, c'est rouge pour Mars, mercredi, gris pour Mercure, etc.
Il y a toute une liste.
Oui. Et pareil pour les encens, les plantes. Et un détail important. La bougie blanche, qu'on voit souvent comme passe-partout, là non. Elle ne remplace pas les autres couleurs, parce qu'elle est spécifiquement liée à la Lune.
D'accord, c'est précis. Donc on a le temps, le lieu, le matériel. Tout ça doit être soutenu par un état d'esprit particulier, j'imagine.
Oui, c'est le dernier pilier de la préparation, la concentration. Les sources recommandent très fortement d'apprendre le rituel par cœur.
Par cœur.
Ah ouais ?
Oui. Le but, c'est d'éviter d'avoir à lire. Parce que lire, ça casse la concentration et ça empêche d'atteindre cet état un peu modifié de conscience qu'ils décrivent comme proche de la transe mystique. Et cet état est jugé nécessaire pour que le rituel fonctionne.
D'accord. Cette préparation, elle ne concerne pas que l'extérieur, mais aussi la personne, l'officiant. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Tout à fait. La préparation de la personne est double, mentale et physique. Mentalement, il faut méditer avant, bien visualiser les étapes du rituel, visualiser sa réussite. Et surtout, y croire, avoir la foi que ça va marcher.
La foi en la réussite. Et physiquement ?
Physiquement, les sources conseillent de manger sainement les jours avant, bio, éviter le gras. Et puis, il y a un truc très détaillé, prendre un bain ou une douche de purification avant chaque rituel.
Un bain de purification ? J'ai vu qu'il y avait même une recette détaillée dans les sources.
Exactement. C'est un bon exemple du niveau de détail. La recette, elle comprend des ingrédients précis, 3 poignées de sel de mer consacrées, une bougie blanche, de l'encens myrrhe ou musc, un bouquet de persil frais et de l'huile essentielle, lavande ou lotus.
Et il y a tout un protocole ?
Oui, c'est très ritualisé. Faut allumer la bougie, l'encens, mettre le persil et le sel dans l'eau chaude, puis tracer des pentagrammes, l'étoile à 5 branches, symbole de protection, avec l'huile sur le front, les poignets, les chevilles, le cœur.
Waouh !
Ensuite, dire des phrases précises à la déesse en entrant dans l'eau, s'immerger complètement, se laver avec le persil d'abord côté gauche, puis droit, méditer 15 minutes dans le bain, et à la fin, jeter le persil utilisé.
Et le but de tout ça ?
C'est dit clairement. Nettoyer le corps, l'esprit et l'âme, des énergies négatives, des pensées parasites. Une purification complète avant de commencer le travail magique.
C'est très complet comme préparation. Après ça, on parle de la tenue. La tunique rituelle, ça a l'air important dans ce système.
Ah oui, c'est présenté comme beaucoup plus qu'un vêtement. C'est un outil magique, un élément sacré. Les sources la décrivent comme une seconde peau. Elle doit être portée à même le corps nu.
Nu en dessous ? Ok, pourquoi ?
Pour permettre la libre circulation des énergies qui sortent des chakras, d'après eux. Elle aurait aussi une fonction de protection, surtout en magie évocatoire quand on invoque des entités. La soie est même mentionnée comme un bon isolant énergétique.
Les sources font le lien avec l'ancienne pratique de la nudité rituelle, non ? Revêtue du ciel et des étoiles.
C'est ça. Ils expliquent que la nudité d'origine, ils citent des textes comme la charte de la déesse ou Aradia, visait à libérer les chakras et à être en osmose directe avec la nature, les divinités. La tunique s'est présentée comme une alternative moderne, pour la pudeur, mais qui essaie de garder une fonction similaire.
Et elle doit être comment cette tunique ? Matière, couleur ?
Alors, le tissu, c'est impératif, naturel. Lin, coton, soie, laine. Surtout pas de synthétique. Elle doit être d'une seule pièce, genre robe ou cape, homme ou femme, pour pas couper l'énergie.
Et les couleurs ?
souvent blanche pour la lune ou noire couleur de la nuit de la déesse dans certains courants en magie blanche ou Wicca. Les tons pastels, ça passe aussi. Par contre, le rouge vif, c'est plutôt déconseillé, associé à la magie noire ou rouge ancienne dans ces textes.
Il y a des couleurs spécifiques pour certains types de magie ?
Oui, pour ceux qu'ils appellent les mages, là c'est plus spécifique. Violet, c'est dit tout terrain, blanc pour le très spirituel, noir pour travailler avec des forces dites négatives, ou voir des couleurs liées aux planètes, mais bon, faut avoir les moyens, précise-t-il.
Et on peut la décorer et elle doit être traitée spécialement ?
Oui, on peut la personnaliser, broder des symboles comme des runes, des pentagrammes, ajouter des pierres. La faire soi-même, c'est encouragé, mais on peut l'acheter si on fait gaffe à la matière. On peut ajouter une capuche, une ceinture en corde naturelle.
Et le traitement spécial ?
Ah oui, crucial. Comme tout outil magique ici, elle n'est pas prête à l'emploi. Elle doit être consacrée, purifiée, sacralisée, chargée en énergie. Une méthode donnée, c'est de l'exposer toute une nuit à la pleine lune ou l'imbiber de rosée de printemps. Et son usage, c'est uniquement pour les rituels. Si elle est très personnelle, on ne la prête pas.
D'accord, donc on a choisi le moment, préparé le lieu, on s'est purifié, on a mis la tunique consacrée. Et là, on passe au rituel. Le cercle magique, ça revient tout le temps.
C'est fondamental, oui. Le cercle a une double fonction, d'après les textes. D'abord, contenir les énergies qu'on va élever ou appeler pendant le rituel. Ensuite, protéger la personne des influences extérieures non désirées.
Et comment on le crée, ce cercle ?
On peut le tracer physiquement, avec une corde consacrée ou du sel. Une fois tracé, il faut l'activer. Ça se fait en invoquant les quatre éléments cardinaux. On utilise souvent du sel pour la terre au nord, de l'encens pour l'air à l'est, une bougie de la bonne couleur pour le feu au sud et de l'eau purifiée pour l'eau à l'ouest. On invoque aussi les gardiens de ces directions pour fermer le cercle énergétiquement.
Et une fois fermé, on ne bouge plus ?
C'est une règle très stricte qui est répétée. Interdiction de sortir physiquement du cercle une fois fermé. Sinon, on brise la protection. On dissipe l'énergie et ça peut annuler tout le rituel.
D'accord. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Comment on doit se tenir, agir ?
Dedans, on invoque les entités, les divinités, les esprits dont on a besoin pour le but du rituel. Il faut rester super concentré, visualiser que ça réussit. Pour la posture, il suggère d'être à genoux ou accroupi face à chaque point cardinal quand on invoque les éléments. Puis, pour le rituel lui-même, on se met plutôt au centre, debout, à genoux, accroupi, comme on est le mieux. Faut éviter les positions trop compliquées, acrobatiques, disent-ils, ça nuit à la concentration.
Et pour les paroles, les incantations ?
Il faut les dire à voix haute, clairement, et surtout avec émotion, avec conviction. C'est pas juste réciter un texte.
La fin du rituel est aussi importante que le début, je suppose.
Tout à fait. La clôture, c'est essentiel. Il faut remercier clairement les entités et les éléments qu'on a appelés, puis les renvoyer ou disperser consciemment l'énergie accumulée, avant d'ouvrir le cercle, souvent en le retraçant à l'envers.
Il y a autre chose à faire après ?
Une offrande est souvent recommandée. Laisser un peu de nourriture, de boisson, d'encens, en signe de gratitude. Et un point qui revient sans cesse, garder le secret absolu sur ce qu'on a fait. Le raconter, ce serait une profanation et ça annulerait les effets.
C'est vraiment une discipline très, très codifiée sur le plan pratique. Mais il n'y a pas que ça, hein. Les sources parlent beaucoup d'une dimension intérieure, non ? Les chakras, les sept dons...
Ah oui, c'est présenté comme l'autre face de la pièce, totalement indispensable. Les sources sont claires là-dessus. Suivre une recette de rituel, même parfaitement, ça ne suffit pas. Pour que la magie qu'il décrit fonctionne, il faudrait développer des capacités intérieures, des pouvoirs extrasensoriels.
Et ça passerait par les chakras ?
Exactement. Ce développement passerait par l'activation, l'harmonisation des sept chakras principaux, ces fameux centres d'énergie.
Les transcriptions donnent même des liens précis entre chaque chakra et certains dons.
Oui, c'est assez détaillé. Par exemple, le septième chakra, tout en haut de la tête, couronne ou karma, serait lié à la mémoire des vies antérieures, la connexion directe au divin, la déesse est souvent citée, la conscience cosmique.
Et les autres ? Le troisième œil.
Le sixième chakra, le troisième œil entre les sourcils, oui. Lui, ce serait pour la prophétie, la clairvoyance. Le cinquième, à la gorge, ce serait la source du pouvoir des mots magiques, des incantations, le verbe créatif, comme ils disent.
Intéressant. Et plus bas ? Le cœur, le plexus.
Alors, le quatrième, le cœur. Sagesse, empathie, guérison. Ils font le lien avec le magnétisme, le reiki, par les mains. Le troisième, le plexus solaire, c'est le moteur émotionnel, mais aussi le siège de pouvoir plus actif, comme influencer la météo, communiquer avec les esprits de la nature, le petit peuple, phénomène.
Le petit peuple, carrément. Et les deux derniers?
Le deuxième, au niveau du nombril, ou sacré, ce serait la porte de l'âme liée au voyage astral, à la visite d'univers parallèles. Et enfin, le premier, le chakra racine, au coccyx, l'ancrage à la terre, la maîtrise de la magie des quatre éléments. C'est lui qui nourrirait l'énergie des autres chakras.
Bosser sur ces chakras, tout ça, ça viserait en fait à ouvrir ce canal intérieur et à réveiller ses dons. Le rituel extérieur ne marche que si l'intérieur est prêt.
C'est exactement ça. L'initiation, vue comme ça, c'est moins une cérémonie qu'un long chemin de développement personnel. Il faut éveiller ce potentiel intérieur pour que la magie soit réelle et efficace, selon eux.
D'accord. Et en parlant de chemin d'initiation, les sources mentionnent différentes façons d'apprendre, mais aussi des mises en garde.
Oui, trois voies principales sont évoquées. D'abord, l'auto-initiation, apprendre tout seul. C'est possible, mais jugé limité si on n'a pas de guide. Deuxième option, trouver un mentor, un enseignant. Ça respecte la tradition orale, mais ça demande un lien très fort, un engagement.
Et la troisième?
Rejoindre un coven, ce groupe de pratiquants. Ça peut motiver, créer une dynamique, mais attention, disent les sources, il y a un risque de dérive sectaire si le groupe est mal géré ou mal intentionné.
Et God Motika, comment ça se positionne par rapport à ça, Shinmura? Ça a l'air d'être un peu un mix des trois.
C'est l'impression, oui. God Motika proposerait une sorte d'auto-initiation, mais très guidée, avec les podcasts et le fil d'Ariane. Ça ajoute l'accès à un mentor, Mandala Chakra, via les directs pour les questions. Et ça crée une communauté virtuelle avec l'application et le coven des ombres qui remplace un peu le coven physique.
Les mises en garde sur les covens sont assez claires dans les documents, non?
Oui, très claires. Une méfiance envers les groupes qui recrutent agressivement sur le net, ceux dirigés par une seule personne de façon autoritaire, et surtout ceux qui font payer l'initiation elle-même. Le message répété, c'est que ce savoir, cette sagesse, ça se partage gratuitement, par conviction, par amour, pas pour l'argent.
C'est un point éthique important qu'il souligne même. J'ai vu aussi dans une source une histoire de 3 degrés d'initiation. C'est courant, ça?
Apparemment, non. C'est présenté comme assez rare. C'est une structure hiérarchique. Le premier degré, c'est la magie naturelle. Ça mène à un rituel de nomination. On reçoit son nom de sorcier-sorcière et on devient confirmé premier degré.
D'accord. Et après?
Le deuxième degré, c'est la magie cérémonielle. Un engagement plus fort avec un rituel de dédication des vœux à la déesse. Et on devient confirmé deuxième degré. Et le troisième degré, le plus haut, touche à la magie céleste divine. Il y a un grand rituel lié à l'union du masculin et féminin sacré, et ça donne le titre de grand prêtre ou grande prêtresse Wiccan.
Et God Motika, ça correspondrait à quoi là-dedans? Plutôt le début?
Vu les thèmes abordés, magie naturelle, sorcellerie traditionnaliste et le but affiché, devenir sorcier confirmé, ouais, ça semble logique de penser que God Motika se concentre sur les bases, ce qui correspondrait surtout au premier degré de cette structure.
Un dernier point important, c'est la communauté, l'interaction. Comment les gens qui suivent ça peuvent échanger?
Alors, les documents listent plusieurs moyens. L'email direct avec Mandala Chakras, il répondrait personnellement, mais attention au spam, disent-ils. Le chat pendant les émissions live sur les radios web partenaires, un formulaire de contact sur le site et bien sûr, l'application École des sorcières.
C'est elle la clé pour la communauté?
Oui. C'est la porte d'entrée vers les sessions interactives sur Teams, Discord et surtout vers la communauté privée, le Coven des Ombres.
L'animateur utilise même le terme Coven radiophonique. Ce Coven des Ombres, via l'appli, ça a vraiment l'air d'être là pour créer ce sentiment d'appartenance, un cercle d'initiés, mais en ligne.
C'est clairement présenté comme ça, comme un élément central. L'idée, c'est de ne pas laisser l'apprenant seul devant son écran. Lui fournir un espace pour échanger, se soutenir, partager ses expériences avec d'autres qui sont sur le même chemin.
Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, quels sont les points clés qui ressortent de cette analyse des sources sur God Motika?
Premièrement, on voit se dessiner un écosystème d'initiation assez complet et moderne. Ça mélange un contenu structuré, les podcasts, le guide, un accès à un mentor, les Q&A live, et une communauté dédiée via une application. C'est une sorte de blended learning version ésotérisme, quoi.
Deuxièmement, l'approche pédagogique elle-même, elle a deux jambes. D'un côté, un enseignement très détaillé, presque technique, des rituels. La préparation, le bain, la tunique, le cercle, très précis.
Et de l'autre côté, et s'est présenté comme absolument crucial, un gros accent sur le développement antérieur. Bosser sur les chakras, éveiller les 7 dons, atteindre des états de conscience modifiés, sans ça, la magie ne fonctionnerait pas. Les deux sont liés, indissociables dans leur vision.
Et troisièmement, le modèle économique, ou plutôt son absence apparente.
Oui, ça semble basé sur la gratuité du contenu principal, podcast, et de l'application qui donne accès à la communauté et aux interactions. Et ça, c'est mis en avant comme un gage d'authenticité, par opposition aux initiations payantes ou aux groupes sectaires qu'ils dénoncent par ailleurs.
Donc, en résumé, d'après ces documents, Godmentica se présente comme une voie structurée, guidée, et qui utilise la technologie actuelle pour s'initier à la sorcellerie. Ça vise peut-être ceux qui veulent l'apprendre seuls, mais qui cherchent quand même un cadre, une communauté et un référent.
C'est une image assez cohérente qui se dégage de tous les documents qu'on avait, ouais.
Alors, pour finir cette exploration qui était assez fascinante, je trouve, une dernière petite réflexion. Toutes ces sources, elles nous montrent un chemin vers la sorcellerie qui est très ancré dans des traditions anciennes, la magie naturelle, les rituels complexes, l'initiation.
Oui, des choses très anciennes.
Mais en même temps, ça utilise à fond les outils les plus modernes, hein, podcasts, applications, webcams pour les directs.
Et ça, ça soulève une question intéressante, je trouve. Qu'est-ce que ce mélange, ce mariage entre l'ancestral et le numérique nous dit sur comment les pratiques ésotériques, spirituelles, évoluent aujourd'hui ?
Comment la technologie change non seulement la transmission du savoir, mais aussi la façon dont les communautés se forment, interagissent, comment elles vivent leur spiritualité au XXIe siècle ?
Exactement. C'est une piste de réflexion, quoi. La sorcellerie à l'heure du digital. Qu'est-ce que ça implique vraiment ?
Pour l'univers de la magie. Code Mantica.